Donc là, on voit comment la culture participe entièrement au processus de changement dans les villes. C'est-à-dire, si vous avez un quartier qui est populaire et que vous voulez qu'il soit fréquenté par des classes moyennes supérieures, ben vous amenez des artistes, vous amenez des centres culturels. Et dans un processus plus ou moins long, de 5 à 15 ans, il y a une population qui va changer tout doucement. Et 15 ans plus tard, il n'y a plus vraiment d'artistes, il y a des gens... qui ont les moyens de se mettre des œuvres d'artistes accrochées à leur mur. Et là, il y a sans doute un projet politique, peut-être global, de reconquête des villes qui ont encore des enclaves populaires. Et là, les artistes ont un vrai rôle, une vraie fonction dans ces processus de changement qui vont amener, si c'est encore le cas dans certaines villes, bon, à Marseille c'est le cas, qui vont amener les classes populaires à être expulsées en périphérie.
L'œuvre d'art, elle n'est pas produite seulement matériellement, elle est produite symboliquement. Si les artistes ne se réapproprient pas, ne se battent pas pour avoir des instruments de production symbolique des œuvres d'art, ils en sont réduits à fabriquer des urinoirs, quoi. C'est-à-dire, c'est soit le galeriste, soit le directeur de musée, soit le curateur. Et à partir du moment où ces gens-là deviennent des commerciaux ou sont sous la coupe des pouvoirs financiers et des multinationales, ben c'est ces gens-là qui décident ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, selon le processus qu'a montré Duchamp en mettant son urinoir dans une galerie. Hein. C'est ça la leçon de l'urinoir. Donc pour ne pas devenir des urinoirs, nous-mêmes en tant qu'artistes, et ben il faut se réapproprier les moyens de production symbolique. Les artistes doivent travailler sur les forces qui s'appliquent à leur champ et à eux-mêmes, quoi. Je pense que déjà, si les artistes battent dans leur champ pour y être libres, ils rendent service à tout le monde, parce qu'en plus, ils produisent des formes qui peuvent être utilisées par d'autres.
Et résistance sociale. C'est le titre du dernier numéro de la revue Agone, qui aurait pu aussi s'intituler Gentrification ou Revitalisation aux quatre coins du monde. La revue comprend un DVD avec deux films, Les Indésirables de Patrick Taliercio sur les expulsions rue de la République et Art Security Service signé Bernard Mullier. Cette revue sera présentée ce jeudi à 19h à la librairie L'Odeur du Temps à Marseille par Alessie Dell'Umbria et Benoît Eugène. Radio Grenouille vous propose un entretien croisé avec Benoît Eugène, rédacteur en chef de la revue Agone, et Bernard Mullier, qui commence par nous expliquer comment il en est venu à faire ce film Art Security Service.
Pour moi, l'idée au départ, c'était... Bon, il y avait deux choses. La première chose, c'était le rôle de l'artiste d'art contemporain, qui pour moi était un rôle sur la zone frontière entre le bon goût et le mauvais goût, c'est-à-dire qu'on produit des formes qui vont être cautionnés par les élites culturelles comme appartenant à la culture d'en haut. Et donc je voulais situer l'artiste sur cette frontière-là en agent de sécurité du bon goût. Donc ça, c'était le premier élément. Le second élément qui m'a amené à prendre cette position de faire cette performance dans la galerie Ravenstein, c'est que je connaissais un promoteur immobilier qui effectuait... sa fonction à Bruxelles et qui avait à l'époque sponsorisé une exposition de vaches en polyester qui avait envahi les rues bruxelloises. Et il s'agissait plus d'une grande entreprise de marketing et de privatisation de l'espace public. Et donc avec quelques amis, on avait produit un journal qui était une réponse un petit peu par rapport à l'unanimité médiatique face à ce grand populisme de marché. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de voir que le promoteur immobilier, pour un projet bien spécifique, là, par contre, jouait avec une culture d'élite, puisque dans la galerie Ravenstein, il s'agissait de monter le niveau de fréquentation du lieu. Et donc, pour ce faire, la stratégie était d'inviter 12 jeunes galeries émergentes d'art contemporain à s'exposer dans cette galerie-là afin d'attirer un autre public. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir que ce promoteur immobilier pouvait en même temps faire cette culture dite populaire et d'un autre côté faire quelque chose, un événement culturel très élitiste.
Et donc le début du film, c'était cette performance, tu peux expliquer ?
Oui, comme je le disais, le promoteur immobilier avait donc invité 12 jeunes galeries belges à occuper le vide locatif de cette galerie Ravenstein. Alors cette galerie Ravenstein, c'est une galerie qui se situe entre les Beaux-Arts à Bruxelles et la gare centrale. Elle se situe dans une zone d'urbanisme dans laquelle il n'y a plus vraiment d'habitation. Il s'agit d'institutions soit culturelles, soit politiques, palais royal et des sièges d'entreprises qui se trouvent dans cette zone-là. Donc la galerie Ravenstein est surtout fréquentée, elle est surtout traversée par 10 000 nafteurs quotidiens qui, des ministères, rejoignent la gare centrale et là, ils repartent à la maison. Donc la galerie Ravenstein, elle était fréquentée par ce public de petits fonctionnaires qui fréquentent des cafés là, dans le temps élastique entre le travail et la maison. Donc c'était un vrai lieu de sociabilité de fonctionnaires et le promoteur donc désirait changer un petit peu la fréquentation et ramener des gens qui partagent plus cette culture des beaux-arts. Et donc, le vernissage se déroulant, je me suis introduit de manière non autorisée en agent de sécurité, donc, qui était un agent de sécurité un peu comique parce que c'était un peu surjoué dans les attributs de l'agent. Et durant le vernissage, donc, je fais mes rondes et j'engage des conversations avec les gens. Et d'une certaine manière, l'agent de sécurité devient une espèce de révélateur. Et les vraies forces sociales d'affrontement se traduisent, puisque le rôle de l'agent de sécurité, c'est de faire la séparation des espèces, c'est-à-dire ceux qui peuvent rentrer et ceux qui semblent un peu plus indésirables. Voilà.
Et donc, en fait, à ce moment-là, tu croises les galeristes, la directrice de projet du promoteur immobilier, ces interlocuteurs que tu vas aller voir 15 jours plus tard pour les interviewer, et à ce moment-là, personne, donc un jour plus tard, personne ne te reconnaît. Comment tu l'expliques ?
Alors oui, ça c'est assez étonnant. Bon, d'abord, il y avait la magie de se retrouver dans la peau d'un agent de sécurité. À partir du moment où vous êtes un agent de sécurité, il n'y a plus que votre fonction qui compte. Vous devenez peut-être une personne sans visage. En tout cas, comme vous êtes assez déclassé dans une certaine échelle de représentation sociale, vous êtes plus une fonction et moins un individu. Donc c'est ce qui m'a permis, 15 jours après, de rencontrer ces gens sous une autre identité, donc celle de l'artiste qui fait un film sur l'entreprise de l'exposition dans les galeries Ravenstein, et qu'il n'y ait pas de connexion qui se fasse entre que j'étais l'agent de sécurité avant, quoi. Donc il y a une espèce de magie sociale qui fait que vous pouvez passer d'une fonction à l'autre sans être connu.
Alors, à un moment, il y a un galeriste qui parle de primitif. Il parle de qui, en fait, là ? Des commerçants, des cafetiers ou des clients ?
Effectivement, le curateur de l'exposition, qui s'appelle Yanout Junior, a un rapport d'un racisme social assez exemplaire. Et il définit les gens qui fréquentent ces cafés dans le bas de la rotonde comme des primitifs. Il parle de gens ordinaires, de fonctionnaires qui vont boire là un coup avant de rentrer au travail.
Oui, c'est pas les classes les plus populaires qui soient quand même.
Non, alors c'est vraiment pas les classes les plus populaires qui soient. Les gens qui fréquentaient ces cafés étaient des fonctionnaires. Donc on voit que le racisme social a une espèce de géométrie variable et tout d'un coup on peut se rendre compte que des gens qui travaillent, entre autres pour l'État, se trouve pris dans ce spectre du rejet, de la dénégation, de l'exclusion. Et il y a une diabolisation du corps, puisque le corps populaire est vraiment agressé, il est défini par des comportements un peu animaux, des quasi-nudité, on parle de prostitution, on parle de décadence, de danse. Le corps est tellement corporalisé qu'il en devient un corps sauvage. Et il s'agit de... Oui, le spectre s'élargit, puisqu'on parle de classe moyenne.
On peut dire que c'est un film de résistance d'un artiste face à l'instrumentalisation ou l'aveuglement de la sphère culturelle, artistique, qui est devenue alliée d'un promoteur immobilier et participe à la gentrification, donc ce processus d'exclusion des pauvres, et là en l'occurrence de même de classe moyenne de certains quartiers.
Ce qu'il y a, c'est que les artistes, ils choisissent la paire de lunettes qu'ils vont déposer sur leur nez. Et à partir du moment où on envisage des notions simples de sociologie, ou qu'on regarde un petit peu le paysage social autour de nous, et alors si à partir de ce moment-là, ça devient de la résistance, d'avoir cette lucidité, peut-être, mais moi je ne me sens pas vraiment comme un résistant, mais plutôt comme quelqu'un qui est dans la tradition du paysage et qui essaye de définir des espaces avec des relations entre les gens qui peuvent donner la perception d'un terrain social avec des relations, des forces et des influences. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à l'auto-aveuglement peut-être du milieu culturel par rapport au contexte social dans lequel il se trouve.
Et alors comment il a été reçu ton film au sein du milieu culturel ou par tes amis artistes ?
Moi, c'est très difficile de faire des généralités, mais ça a pu poser pour certaines personnes certaines gênes, comme s'il y avait une forme de trahison, que c'était plus de l'art, que c'était de la sociologie. Donc le fait de définir le contexte dans lequel les artistes doivent travailler, c'était quelque chose peut-être qui était un peu gênant pour les artistes qui participaient au système, puisque mes camarades de classe, mes pères, faisaient partie de cette exposition. Moi, je pense plutôt que définir le contexte dans lequel les artistes, s'ils veulent réussir professionnellement, dans lequel ils doivent travailler, le fait de le définir, c'est pas faire une... Je crois pas ce terme de trahison, mais ça permet certainement aux artistes, plus la lucidité est grande, de mieux pouvoir se déplacer et s'en sortir dans cette pratique de la relation qui est toujours nécessaire. Mais moi, je pense que le plus on prend conscience de la réalité et qu'on parvient à objectiver ces mécanismes-là, plus habile on est. Et voilà.
Tu as utilisé un micro caché pour certaines séquences. On te l'a reproché ?
Donc les caméras n'étaient pas cachées, mais la prise de son l'était. Mais bon, là, il s'agit de quelque chose que j'assume entièrement à partir du moment où on est face à une forme qui monopolise tous les capitaux, puisque donc, ce promoteur immobilier, évidemment, a une force financière énorme. Il a des conseillers juridiques, il a une agence de sécurité, là, une véritable, qui est beaucoup moins rigolote que la mienne. À son service, et un système policier aussi qui intervient dans la galerie pour faire appliquer les nouveaux règlements de l'entreprise privée. Quand les agents de sécurité ne parviennent pas à leur fin, on appelle la cavalerie qui débarque en gilet pare-balles pour faire appliquer les horaires de fermeture au cafetier afin qu'ils ne puissent plus exercer leurs activités professionnelles. Donc il y a la police, il y a les beaux-arts qui participent, il y a les journalistes qui ont fait des copier-coller des dossiers de presse du promoteur immobilier qui ont diffusé toute la propagande antipopulaire. Et en plus, il y a les artistes, il y a les galeristes. Donc il y a un cumul de compétences et qui construit l'exclusion. Donc, pour moi, le micro caché est une bonne réponse, en tout cas est justifiée pour entamer une pénétration de la réalité et d'essayer de baisser les pantalons de ceux qui les tiennent à deux mains.
Aujourd'hui, ce film sort donc, enfin, est sorti avec la revue Agone, mais dans le même temps, tous les commerçants locataires ont été expulsés. Alors, à quoi il sert ce film ?
Ce qui est intéressant dans le film, c'est que tout se passe dans une galerie. Et donc la galerie peut être considérée comme une espèce d'éprouvette, puisque tous les agents, qu'ils soient culturels, financiers, policiers ou économiques, se retrouvent dans la même éprouvette. Et il y a peut-être une espèce de réaction chimique qui, par la présence d'un révélateur, permet de dégager peut-être un modèle de gentrification, et toute son idéologie devient apparente. Donc ce modèle peut s'appliquer très certainement à beaucoup de processus de gentrification qui a lieu dans pas mal de villes de par le monde. Et je crois que ça peut fournir un modèle qui permet aux habitants de villes qui subissent ces forces-là de manière peut-être dans le temps un peu plus étalée et de manière plus diffuse, de pouvoir identifier ces formes-là et pouvoir mieux s'en défendre, j'espère.
Mais il a l'originalité pour un film qui traite de la gentrification de se focaliser sur le rôle des artistes dans ce processus de gentrification, ce qu'on voit quand même assez rarement.
Oui, donc là on voit comment la culture participe entièrement, et là c'est de manière tout à fait réfléchie, au processus de changement dans les villes. C'est-à-dire, si vous avez un quartier qui est populaire et que vous voulez qu'il soit fréquenté par des classes moyennes supérieures, ben vous amenez des artistes, vous amenez des centres culturels. Et dans un processus plus ou moins long, 5 à 15 ans, il y a une population qui va changer tout doucement. Et 15 ans plus tard, il n'y a plus vraiment d'artistes. Il y a des gens qui ont les moyens de se mettre des œuvres d'artistes accrochées à leurs murs. Et là, il y a sans doute un projet politique peut-être global, de reconquête des villes qui ont encore des enclaves populaires. Et là, les artistes ont un vrai rôle, une vraie fonction dans ces processus de changement qui vont amener, si c'est encore le cas dans certaines villes, bon, à Marseille c'est le cas, qui vont amener les classes populaires à être expulsées en périphérie.
Bernard Mullier, que vous venez d'entendre, a réalisé le film Art Security Service, qui est inclus dans le dernier numéro de la revue Agone. On poursuit cette petite émission autour de la gentrification et du rôle joué par la culture dans ce processus de transformation urbaine. Et on écoute maintenant Benoît Eugène, rédacteur en chef de la revue Agone.
L'œuvre d'art, elle n'est pas produite seulement matériellement, elle est produite symboliquement. Si les artistes ne se réapproprient pas et ne se battent pas pour avoir des instruments de production symboliques des œuvres d'art, ils en sont réduits à fabriquer des urinoirs, quoi. C'est-à-dire, c'est soit le galeriste, soit le directeur de musée, soit le curateur. Et à partir du moment où ces gens-là deviennent des commerciaux ou sont sous la coupe des pouvoirs financiers et des multinationales, ben c'est ces gens-là qui décident ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, selon le processus qu'a montré Duchamp en mettant son urinoir dans une galerie, hein. C'est ça qui... C'est ça la leçon de l'urinoir. Donc pour ne pas devenir des urinoirs, nous-mêmes en tant qu'artistes, il faut se réapproprier les moyens de production symbolique. Et donc en l'occurrence, c'est le film, je pense, pour le champ artistique, il montre quels sont les contextes sur lesquels il est pertinent de travailler. Et je dis toujours pourquoi, par rapport à l'engagement social ou politique de l'artiste avec lequel on nous bassine en permanence, qui consisterait à aller faire de l'agitation politique ou dans les mouvements sociaux, etc. Je pense que déjà, si les artistes battent dans leur champ pour y être libres, ils rendent service à tout le monde, parce qu'en plus, ils produisent des formes qui, comme dans ce cas, peuvent être utilisées par d'autres. Et à partir du moment où, là, dans quelle espèce, c'est un promoteur qui instrumentalise l'art, le promoteur fait partie du contexte de l'art, quoi. Donc on est obligé de travailler sur le promoteur, c'est tout. Ce serait autre chose qu'un promoteur. Voilà. L'idée n'est pas de dire voilà, les artistes doivent travailler sur les promoteurs. Non, les artistes doivent travailler sur les forces qui s'appliquent à leur champ et à eux-mêmes, quoi. Parce que sinon, ils n'ont pas les moyens de production de leur œuvre. Voilà, quand un centre culturel comme le lieu unique à Nantes accueille des artistes en résidence pour faire des œuvres autour de la marque Coca-Cola, par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des artistes qui ont besoin de ressources pour avoir une résidence, ils doivent maintenant se mettre au service d'une marque. Ça veut dire que c'est Coca-Cola qui décide ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Du point de vue de la défense de l'art, c'est totalement inadmissible, évidemment. Mais alors, il ne suffit pas de dire « j'y vais pas » non plus, parce que c'est des vrais pouvoirs qui occupent tout l'espace, donc il faut les combattre avec... Et alors, les combattre avec les moyens de l'art, bon, ça me paraît tout à fait justifié, justifiable, et je pense que c'est, surtout dans le moment de perte d'autonomie là, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On va les bien regarder. Le champ de l'art offre tellement de possibilités de retournement avec peu de moyens que ça peut être vraiment aussi le laboratoire de la contre-insurrection symbolique, quoi.
Dans ton éditorial de la revue, tu, je crois me rappeler que tu dis que le film de Bernard Mullier a la vertu de montrer les deux côtés du tableau. Tu fais un parallèle avec le tableau La Chute d'Icare, tu peux expliquer ?
Bon, déjà, c'est un film qui peut être vu par tout le monde, c'est-à-dire il y a les classes populaires. Alors les classes populaires, c'est plutôt les tenancières, les gérantes de bars en l'occurrence. Il y a cette classe moyenne de petits ou de grands fonctionnaires d'ailleurs qui fréquentent les bars. Il y a les promoteurs, il y a les galeristes et il y a les artistes qui eux-mêmes sont dans une position intermédiaire entre le haut et le bas. Hein. Et tout ça apparaît sur le même tableau alors que l'ensemble des protagonistes de ce drame sont enfermés dans leur point de vue. Hein. Que ce soit le haut ou le bas, on parle de l'aveuglement des galeristes et des artistes, mais on peut aussi parler de l'aveuglement de ceux qui se font avoir dans l'histoire, hein, qui donc n'ont pas accès à une compréhension, à une représentation globale des choses qui leur permettrait d'avoir des stratégies de résistance qui seraient cohérentes. Et donc ils devraient prendre des outils dans le haut, ils auraient besoin des outils du haut pour lutter. Et donc, comme dans le tableau de Bruegel, La Chute d'Icare, où il y a... Bon, c'est caricaturé, mais il y a deux parties. Il y a un bas, un premier plan où on voit un laboureur, et c'est un mode de représentation très travaillé. Il y a l'agriculture est en terrasse. Enfin bon, c'est le travail de quasi-ethnologue que faisait Bruegel, hein, qui a travaillé sur les jeux d'enfants, sur les dictons, justement, sur les relations sociales, qui a mis la plus grande compétence de représentation qu'on avait à son époque, qui était la peinture, au service de représenter le social, mais pas de le représenter... disons à la courbée, de toute façon, je vais vous faire un mineur, je vais vous faire un truc. Non, c'est d'une vision relationnelle entre les choses. Et il y a le haut du tableau, c'est perspective cartographique, donc c'est peu de temps après que le champ de la peinture se soit détaché de la recherche cartographique. Et donc cette recherche cartographique, elle a donné la capacité de naviguer sur les mers, donc il y a des caravelles, et donc c'est la carte, et c'est la carte de la caravelle de la conquête des Amériques. Donc justement, cette vision... scolastique extrêmement puissante, quoi, qui permet de calculer, de voir loin, de coloniser en l'occurrence, d'avoir une certaine mode d'emprise sur le réel et de le transformer, de le rationaliser. Et il y a cette tension entre le haut et le bas, c'est-à-dire que les outils qui représentent le haut ne peuvent pas être utilisés pour représenter le bas, ou bien il faut les transformer. Et donc, dans le film, il y a aussi le haut et le bas, il y a le...
Peut-être qu'il faut juste préciser pour ceux qui n'ont pas vu le film, que vraiment quand on parle de haut et de bas, c'est ça spatialement, c'est vraiment c'est un fait dans le film.
Oui, tout à fait. Alors celui qui traite ceux du bas de la rotonde, parce qu'ils sont sur une mezzanine, de primitif, il les regarde aussi d'en haut. Hein, voilà. Et alors en plus dans le tableau, il y a aussi celui qui pourrait être la figure du peintre en l'occurrence ou de Bernard dans ce film, c'est. C'est Icare qui se noie. Icare, il est tombé, c'est la chute d'Icare. Alors, il y a une caravelle. Bon, les types sur la caravelle, ils n'ont rien à foutre. Il y a un pêcheur à côté qui pêche. Il y a Icare qui se noie, il n'a absolument rien à foutre non plus. Et bon, c'est un peu le point de vue qui essaie de représenter tous les points de vue, qui en même temps, c'est aussi une position d'exclusion, parce que se mettre là-dedans, c'est embêter tout le monde aussi. C'est clair. Mais bon, je pense qu'on a un vrai besoin de représenter le monde comme ça. Pour le comprendre et pour pouvoir agir dessus, quoi. Voilà.
C'est peut-être plus une position de marginalisation que d'exclusion.
C'est une position difficile, c'est une position d'autonomie, c'est une position où on est tout seul parce qu'on doit faire des ruptures des deux côtés, quoi. Parce que l'artiste, il est entre les classes sociales aussi. Alors, le problème, c'est les gens qui veulent monter. Et qui donc occultent le bas social, dont souvent ils viennent. Hein, peut leur trouver plein d'excuses. Il y en a plein qui n'ont pas d'argent, qui ont des vies très difficiles, etc. Mais en même temps, ils valident les valeurs du haut et le point de vue du haut. Quoi. Ils contribuent à écrabouiller le bas. Et il y a l'autre trajectoire qui est justement de se mettre ni en haut ni en bas et de de représenter l'ensemble. Et donc là, on est un trait du haut, mais aussi on a un trait du bas. Parce que quand on va au bas, on va avec une caméra, on est quand même quelqu'un qui est avec une caméra et qui va pas subir les conséquences de ce qu'il dénonce non plus. Hein. Il n'est pas dans la situation des cafetiers. Et donc c'est une grosse différence. On parlait dans une autre émission de Colmao et Rotary. Là. Je veux dire, ceux, les Julie, les machins, etc., qui faisaient la cause du peuple et qui disaient qu'il fallait pendre les patrons à des réverbères et qui sont devenus des patrons eux-mêmes, qui ont une trajectoire comme ça. Et ben, si on prend Guy Hockenheim, par exemple, qui était dans le même début de la trajectoire, lui, il est resté et il a regardé le monde se transformer. Et il a décrit les évolutions de tous ces gens, donc il a fait un tableau. Et tout le monde le déteste. Il est tout seul, ce gars. Hein, il fait une œuvre unique et une œuvre utile. Et je pense que c'est ça le vrai travail artistique ou scientifique. Pour la trajectoire d'un Bourdieu, par exemple, c'est toujours voilà, essayer de tenir les deux. C'est pas parce qu'on a accès. Il est devenu professeur au Collège de France. Et on a accès aux moyens de faire la recherche, qu'on se met au service des dominants en disant vous m'avez reconnu et je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Non, au contraire, utiliser cette position-là pour représenter le monde de ce point de vue relativement unique. Et dans son cours sur Manet, il parlait de la trajectoire d'Ingres, qui travaille peintre assez extraordinaire, mais à partir du moment où il est sur la fin de sa vie, il est reçu à l'Académie, il arrête le travail qu'il faisait, il dit maintenant il faut que je sois à la hauteur finalement du poste que j'ai obtenu, donc je fasse les grandes allégories sur la justice, le machin. Et donc c'était pas un peintre pompier, il le devient en étant reconnu, quoi.
Avec la revue, il y a un autre film qui présente plutôt le bas du tableau, lui. Ça s'appelle Les Indésirables, de Patrick Taliercio. Et donc, sur les violences liées aux expropriations et expulsions rue de la République à Marseille. Alors, on peut peut-être dresser des parallèles entre les deux films et les deux processus de gentrification. Dans les deux cas, donc à la Galerie Ravenstein et rue de la République à Marseille, il y a une stratégie de pourrissement de la zone, du quartier.
Ce qui est intéressant, c'est que les techniques des promoteurs sont toujours les mêmes, mais il n'y a que ceux qui les subissent qui ne les connaissent pas, en fait. Hein. C'est-à-dire, on laisse pourrir pour dévaluer le truc. Après, quand on passe à l'action, on commence à ruiner les commerçants. Alors, dans la galerie, c'est en leur imposant des horaires de fermeture. Rue de la République, c'est en faisant des chantiers qui les empêchent d'accéder à leur magasin. Donc, du coup, après, on peut les racheter ou bien... Ils font faillite, donc c'est tout bénéfice. Et donc, c'est toujours les mêmes techniques. Il y a l'épure qui est dans le film de Bernard, et puis il y a la réalisation à plus vaste échelle, rue de la République. Et quelqu'un qui voudrait lutter politiquement contre ça, il pourrait aussi en tirer des conclusions, c'est-à-dire empêcher les propriétaires de faire pourrir un quartier en les taxant, en les obligeant à rénover. Et bon, il y a aussi moyen de... À partir du moment où c'est le modèle général, on voit que les promoteurs, ils savent ce qu'ils font, ils savent faire, quoi. Hein. En plus, on ne croit pas, l'homme ordinaire ne croit pas que les gens puissent être aussi odieux pour utiliser des stratégies aussi dégueulasses, etc. Personne n'y croit. Il y a toujours les pouvoirs publics qui sont derrière, donc l'impression qu'il y a quand même une garantie, que ces gens sont au service du bien commun, de l'intérêt général, etc. Donc, bon, pas vraiment.
Et autre parallèle, donc, concernant la galerie Ravenstein et la rue de la République à Marseille, c'est que ça ne marche pas vraiment,
au final. Bah oui, ça c'est l'autre truc, c'est que dans les deux cas, il s'agit de créer une économie qui repose sur un public et une clientèle qu'il faut d'abord faire venir. Donc en gros, on construit des magasins et des activités qui visent un public totalement différent de celui qui est présent, et donc il faut changer les gens qui sont là et en faire venir d'autres. Et ils flashent tous sur la bourgeoisie transnationale, là, mais qui en termes numériques ne représentent quand même pas une énorme clientèle, quoi. Alors on va mettre toutes les villes, on va aménager toutes les villes pour je sais pas, 100 000 bourgeois mondiaux qui vont faire beaucoup de logements. En plus, ces gens sont hyper mobiles par définition, donc ils resteront pas non plus. C'est très très bizarre. Hein, économiquement, ça tient pas vraiment debout. Ça appauvrit les pauvres en leur volant des ressources. Et en espérant faire de l'argent avec les riches, mais on ne peut pas organiser la planète exclusivement pour les riches, parce que les autres, ils vont finir par se révolter sérieusement, quoi.
Et pourtant, c'est un peu ce qui est en train de se passer, parce que dans la revue donc Ville et Résistance Sociale, il y a comme un état des lieux d'une mondialisation, d'une globalisation de la gentrification, de l'Afrique à l'Asie, à l'Europe, Amérique.
Oui, tout à fait. C'est un espèce de modèle qui est appliqué partout, qui repose vachement sur l'intégration des groupes immobiliers, des groupes financiers, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Il faut avoir le temps de durer à perte, en espérant que ça va rapporter quelque chose. Il faut qu'il y ait de la spéculation, parce que même si ça ne rapporte rien, on peut toujours espérer le revendre deux fois plus cher. Mais jusqu'au phénomène de bulle, où évidemment ça arrive partout dans le monde, donc au bout d'un moment, le marché il va exploser, ça va s'écrouler. C'est logique. Mais entre-temps, ce qui a été détruit ne pourra pas être construit. C'est-à-dire que les gens du centre de Pékin, par exemple, il y a 1 500 000 personnes qui ont été expulsées pour les Jeux Olympiques, dont on a rasé les quartiers, qu'on a mis dans une lointaine périphérie, qui ont sombré dans la pauvreté. Eh ben, on ne pourra pas reconstruire le système de relations sociales qu'ils avaient créé au sein de leur quartier et qui leur permettait, même avec peu de ressources, de survivre. Comme ici, on aura perdu les artisans, on aura perdu le savoir-faire des petits commerçants, on aura perdu tout ça. Et donc on aura des chômeurs, des gens qui ne savent pas se débrouiller, qui ont été dépossédés des dernières choses qui leur permettaient de survivre. Et c'est exactement comme quand on détruit l'agriculture paysanne au profit des cultures d'exportation.
Là, tu as évoqué un article sur les JO, enfin autour des Jeux Olympiques et l'exclusion que ça entraîne, cette préparation des Jeux Olympiques. Donc il y a cet article sur comment un grand événement international sert à expulser les plus pauvres du centre-ville, voire de la ville. Dans un autre numéro de la revue Agone, il y avait un article qui analysait aussi l'île capitale européenne de la culture 2004, sous l'angle du mariage culture et économie. Marseille est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2013. Tu peux nous expliquer ce qu'on risque ?
C'est vraiment l'art complètement instrumentalisé au service de l'économie, comme produit d'appel pour les hôtels, pour les cadres supérieurs, et l'instrumentalisation, disons, de la culture populaire, entre guillemets, sous une forme d'un populisme de marché, folklorisation. La population devient au mieux figurante pour l'espèce de show de plus belle la vie qui va servir de cadre idéologique au quotidien des cadres supérieurs qu'on essaie d'attirer. Et surtout, très peu des initiatives locales, manifestement, continuent à être financées après. Donc c'est pas du durable, comme on dit, du tout. Alors qu'avec avec l'argent, on pourrait lancer des choses dans les quartiers, travailler dans la dimension locale, ce serait important. Et même quand j'entends Guérini parler de la candidature de Marseille, il dit, en gros, il faut faire venir des artistes internationaux pour donner l'image à Marseille.
Guérini.
Ouais. De la même façon qu'il faut faire des tours pour faire une skyline. Donc, les artistes, grands architectes, artistes, c'est exactement la même idée. Et dans son discours sur la culture, qui a lancé sa campagne, il n'a pas parlé des ressources locales. Alors, qu'est-ce qui fait l'image de Marseille culturellement partout en France ? C'est le rap, par exemple. Il n'a pas parlé. Ça n'existe pas. C'est délirant.
Bon, Marseille est candidate, mais est-ce que de toute façon, ce processus, que ça soit à la fois mariage, culture, art et monde de l'entreprise, et gentrification, entre autres via l'instrumentalisation de la culture, ne va pas se produire dans tous les cas, qu'elle soit capitale ou non ? Est-ce que c'est pas une question juste de temps ?
Les grands événements, en fait, ce qui est montré dans l'article sur les Jeux Olympiques, c'est un très gros accélérateur. Parce que ça attire énormément de financements, d'infrastructures, alors grands stades, palais des congrès, trucs comme ça, qui sont évidemment censés servir à toute la population, mais qui font payer en gros par les impôts des infrastructures, sans qu'il y ait de décision politique, d'arbitrage entre qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Quoi. Et tout ça dans un unanimisme, parce que évidemment les gens qui sont pas pour la candidature, etc., sont vraiment des rabat-joie, quoi. Voire en Chine, ils sont des traîtres. Bon. Et ça crée un climat médiatique qui muselle les voix dissidentes, quoi. Il y a notamment un encadré sur le cadre des Jeux Olympiques d'Atlanta, où il est dit que même les gens de gauche et progressistes, qui travaillaient avec les SDF, etc., En fait, le climat, c'était... on peut bien accepter toutes les exceptions pour 15 jours, 3 semaines, quoi. Et bon, ça a consisté à construire, par exemple, une prison pour mettre tous les SDF pendant la durée des Jeux Olympiques, suspension d'un certain nombre de droits de l'homme, etc.
Vous venez d'entendre Benoît Eugène, rédacteur en chef de la revue Agone, et auparavant Bernard Mullier, réalisateur du film Art Security Service, inclus dans le dernier numéro de la revue. Dernier numéro intitulé « Ville et résistance sociale » qui sera présenté ce jeudi à 19h à la librairie L'Odeur du Temps à Marseille par Alessie Dell'Umbria et Benoît Eugène.